Chapitre 6 Délibération. La persécution sévissait depuis quelque temps en Orient sous Dioclétien et Galérius, et le décret qui l'étendait à l'Occident venait d'être apporté à Maximien. On résolut alors de ne pas se borner à réprimer les progrès du christianisme, mais à exterminer les chrétiens de l'Empire romain. Dans ce but, on décida que personne d'entre eux ne serait épargné, mais que la persécution, commençant par atteindre les chefs et les puissants de l'Église, descendrait jusqu'au peuple et aboutirait au massacre des dernières classes elles-mêmes. Il était donc nécessaire de prendre des mesures afin que les divers engins de destruction pussent concourir ensemble à ce massacre implacable. Tous les instruments possibles devaient être employés pour arriver au but, et la majesté des ordres impériaux vint ajouter, par leur toute-puissance et par la terreur qu'ils inspiraient, à ce coup décisif. Pour atteindre ce but, l'empereur, malgré son impatience de commencer l'œuvre de sang, se déféra à l'opinion de ses conseillers, qui décidèrent que l'édit resterait secret jusqu'au jour où on pourrait le publier en même temps dans toutes les provinces de l'Occident. La nuée orageuse, chargée du tonnerre de la vengeance, devait rester suspendue pendant quelque temps, dans une pénible obscurité, au-dessus de la tête des victimes qu'elle devait foudroyer, puis éclater tout à coup en déchargeant sur elle les éléments multiples que recélait son sein. Le feu, la grêle, la neige, la glace, la tempête effroyable, tout arriverait à la fois. Ce fut au mois de novembre que Maximien Hercule convoqua l'assemblée, à l'issue de laquelle ce plan fut adopté. Il y avait réuni les principaux officiers de sa cour et de l'État. Le premier d'entre ceux-ci, le préfet de la cité, avait amené avec lui son fils Corvinus, qu'il proposa pour être le capitaine d'un corps de poursuivants armés, choisis à cause de leur férocité et de leur haine pour les chrétiens. Il devait commencer cette chasse homicide et la poursuivre avec une infatigable activité. Les préfets et les gouverneurs de Sicile, d'Italie, d'Espagne et de Gaule étaient présents et reçurent des ordres. Il y avait en outre dans le conseil plusieurs savants, philosophes ou orateurs, parmi lesquels Calpurnius, notre ancienne connaissance, avait été invité. Beaucoup de prêtres païens, venus de différentes parties pour réclamer contre les chrétiens une persécution à outrance, assistaient à la réunion. Comme nous l'avons vu, la résidence habituelle des empereurs était le Mont Palatin. Mais ils en possédaient une autre, qu'ils aimaient également et que Maximien Hercule préférait. Sous le règne de Néron, le riche sénateur Plautius Lateranus fut accusé de conspiration et puni de mort. Ses biens immenses, au nombre desquels était sa maison, dont Juvénal et d'autres écrivains vantent la grandeur et la magnificence, furent saisis et confisqués au profit de l'empereur. Cette habitation était admirablement située sur le Célius, à gauche de la ville. On y jouissait d'une vue qui n'avait pas sa pareille, même dans le voisinage de Rome. Cette vue s'étendait sur la campagne onduleuse, entrecoupée d'aqueducs gigantesques, traversée de nombreux chemins avec leurs bordures de tombeaux de marbre et parsemée çà et là d'élégantes villas enchâssées comme des pierres précieuses dans l'émail sombre des verts lauriers et des cyprès. Le soir, l'œil atteignait la pente empourprée des montagnes sur lesquelles s'étendaient, comme sur une couche voluptueuse, Albe et Tusculum, avec leurs filles, suivant l'expression orientale, se baignant dans l'étincelante clarté du soleil couchant. À gauche du spectateur s'élevait la rampe escarpée des montagnes des Sabins, et à sa droite, la mer, avec ses perspectives infinies, servait de fond à cet admirable paysage. Nous donnerions à Maximien un goût pour le beau que sa grossière nature ne pouvait ressentir en motivant sa préférence pour cette résidence sur sa position si admirable. La magnificence des bâtiments qu'il avait encore fait orner, ou peut-être encore la facilité de sortir de la ville pour chasser le loup et le sanglier, était le motif de cette préférence. Un barbare originaire de Sirmium, en Esclavonie, un homme de la plus basse extraction, un simple soldat de fortune sans éducation, doué seulement d'une force brutale qui lui avait valu son surnom d'Hercule, Maximien, en un mot, avait été élevé à la pourpre par un barbare comme lui, Dioclès, connu sous le nom de Dioclétien. poussant comme son prédécesseur la cupidité jusqu'à la bassesse et la prodigalité jusqu'à l'extravagance, se laissant aller aux vices les plus odieux et à des crimes affreux qu'une plume chrétienne se refuse à retracer, lâchant la bride à toutes ses passions, étranger à l'idée de la justice ou du sentiment de l'humanité, ce monstre n'avait jamais cessé d'opprimer, de persécuter et de tuer ceux qui se trouvaient sur sa route. Il attendait la persécution qui approchait comme un glouton se prépare à un festin dont les débauches exceptionnelles devaient rompre avec la monotonie de ses excès journaliers. D'une taille gigantesque, avec les traits bien connus de sa race, ses cheveux et sa barbe, plutôt jaunes que roux, épais et hérissés, ressemblaient à des touffes d'herbe sèche. Ses yeux, toujours en mouvement, ne connaissaient d'autre expression que le soupçon, la férocité et l'envie. Tel était le dernier des tyrans de Rome qui inspirait la terreur à tous ceux qui le voyaient, excepté aux chrétiens. Il n'est donc pas étonnant qu'il détestât leur race et jusqu'à leur nom. Maximien convoqua son conseil composé d'éléments si divers dans la grande basilique ou salle du palais de Latran, alors appelée Edes Laterans. Le secret des délibérations devait être gardé sous peine de mort. L'empereur s'assit sur un trône d'ivoire richement orné dans l'abside semi-circulaire qui formait l'extrémité de la salle. Devant lui se rangèrent ses conseillers obséquieux et presque tremblants. Un corps de troupes choisi gardait l'entrée et l'officier qui le commandait, Sébastien, entrait dans la salle et appuyé négligemment contre la porte, écoutait avec soin chaque mot qu'on prononçait. L'empereur ne pensait pas que la salle dans laquelle il était assis et qui donna ensuite avec tout le palais à Constantin comme une partie de la dot de sa fille Fausta serait offerte par son gendre au chef de la religion qu'il cherchait à anéantir et deviendrait, en conservant son nom de basilique de Latran, la cathédrale de Rome, la mère et la première de toutes les églises de la cité et du monde entier. Il ne pouvait s'imaginer qu'à la place même où s'élevait son trône, une chaire serait érigée et que de cette chaire émaneraient les ordres d'une race immortelle de souverains spirituels et temporels, ordres qu'entendraient des mondes inconnus à la domination romaine. Par une déférence religieuse, la parole fut d'abord donnée aux prêtres. Chacun d'eux avait son récit à faire. Là, une rivière débordée avait fait beaucoup de mal aux plaines environnantes. Ici, un tremblement de terre venait de renverser en partie une ville. Sur les frontières du nord, les barbares menaçaient d'envahir l'empire. Dans le sud, la peste ravageait les populations. Et toutes ces calamités, les oracles les attribuaient aux chrétiens, les dieux s'irritaient de voir cette race tolérée dans l'empire, et leur charme malfaisant amenait tous les maux. Quelques oracles avaient même déclaré à leurs prêtresses affligées qu'ils se tairaient jusqu'à ce que la race odieuse des Nazaréens fût exterminée, et le grand oracle de Delphes n'avait pas hésité à dire que le juste ne permettait pas aux dieux de parler. Puis vint le tour des philosophes et des orateurs. Chacun d'eux fit de longs discours, pendant lesquels Maximien donna les signes d'un ennui non équivoque. Mais comme les empereurs d'Orient avaient tenu une assemblée de même nature, il considérait comme un devoir de dévorer son ennui. Pour la millième fois, les mêmes calomnies furent redites aux applaudissements de l'assemblée. On répéta l'accusation des crimes honteux, les histoires d'enfants égorgés et mangés dans un banquet. On travestit le culte rendu au corps des martyrs en prétendant que les chrétiens adoraient une tête d'âne et on les accusa en même temps de ne croire à rien et de ne reconnaître aucune divinité. Ces contes absurdes furent tous fermement crus, quoique ceux qui les répétaient sussent peut-être très bien que ce n'étaient là que des mensonges inventés par les païens afin d'entretenir la haine du christianisme. Mais à la fin, l'homme le plus savant de l'assemblée se leva. Il était considéré comme ayant très profondément étudié les doctrines de ses ennemis et connaissant à fond leurs dangereuses tactiques. Il avait, soi-disant, lu tous les livres des chrétiens pour en tirer la réfutation de leurs erreurs monstrueuses, et son opinion avait un tel poids sur ceux de son parti que, quand il affirmait que les principes des chrétiens étaient infâmes, le souverain pontife, fût-il venu en personne pour le contredire, Il eût été accueilli par des éclats de rire à la seule pensée de mettre le poids de sa parole en face de celle de Calpurnius. Il adopta ce jour-là un plan différent et son érudition étonna ses confrères les sophistes. Il avait lu, dit-il, non seulement les livres originaux des chrétiens, mais ceux des juifs, leurs ancêtres. Ceux-ci vinrent en Égypte sous le règne de Ptolémée Philadelphus pour échapper à la famine qui désolait leur pays. Ils achetèrent par la ruse de leur chef Joseph tout le blé d'Égypte et l'envoyèrent en Judée. Ptolémée les fit emprisonner à ce sujet, disant que, puisqu'ils avaient mangé tout le blé, ils vivraient sur la paille en fabriquant des briques pour construire une grande cité. Alors Démétrius Phalérius, entendant raconter de curieuses histoires sur leurs ancêtres, enferma dans une tour les deux hommes les plus savants d'entre eux, Moïse et Aaron, leur fit à moitié raser la barbe et les retient prisonniers jusqu'à ce qu'ils eussent relaté en grec toute leur histoire. Calpurnius avait vu ces livres si rares et si précieux, et c'était d'après les renseignements, puisés à ses sources authentiques, qu'il argumentait contre les chrétiens. Il raconta donc que cette race juive faisait la guerre à tous les rois et à tous les peuples qu'elle rencontrait sur son chemin, et qu'elle les détruisait tous. Quand les Juifs s'emparaient d'une cité, ils passaient tous les habitants au fil de l'épée, et cela parce qu'ils étaient sous la domination de prêtres ambitieux. Ainsi, un de leurs rois nommé Shaoul, qu'on appelait aussi Paul, ayant épargné un malheureux monarque captif du nom d'Agag, les prêtres ordonnèrent de le ramener le prisonnier et le coupèrent par morceaux. À présent, continua Calpurnius, les chrétiens sont sous la domination des mêmes prêtres et se disposent aujourd'hui, sous leur direction, à renverser le grand empire romain, à nous brûler tous dans le forum, et même leurs mains sacrilèges oseront menacer jusqu'aux têtes sacrées et vénérables de nos divins empereurs. À ce récit, un frisson d'horreur courut dans l'assemblée. Mais il se calma bientôt, car l'empereur se disposait à parler. Pour ma part, dit-il, j'ai une plus forte raison d'abhorrer les chrétiens. Ils ont osé établir au cœur de mon empire et dans sa capitale elle-même une autorité religieuse suprême, inconnue avant eux, indépendante du gouvernement de l'État et exerçant sur les esprits une puissante influence. Autrefois, tous reconnaissaient l'empereur comme le chef suprême de la religion et de la société civile. C'est pour cela qu'il porte encore le titre de grand pontife. Mais ces hommes ont divisé le pouvoir et ne nous accordent plus qu'une demi-fidélité. Je déteste leur puissance spirituelle comme une usurpation de mon pouvoir sur mes sujets. Car, je le déclare, j'aimerais mieux un rival disputant mon trône que d'entendre parler de l'élection de ces prêtres à Rome. Ce discours, prononcé d'une voix rude et haute, entaché d'un vulgaire accent étranger, fut reçu par d'immenses applaudissements. On prit des mesures pour la publication simultanée de l'édit dans toutes les provinces d'Occident et pour l'exécution complète de cet arrêt d'extermination. Puis, se tournant vivement vers Tertullus, l'empereur lui dit « Préfet, vous m'avez annoncé quelqu'un pour surveiller ces arrangements et poursuivre sans pitié tous les traîtres. » « Il est ici, Seigneur, c'est mon fils Corvinus. » Et Tertullus conduisit par la main le jeune candidat jusqu'au pied du trône du maître, où il s'agenouilla. Maximien jeta sur lui son regard perçant, puis poussa un hideux éclat de rire, disant « Sur ma parole, je crois qu'il fera l'affaire. Je ne sais pourquoi, préfet, mais je ne pensais pas que vous eussiez un fils si parfaitement repoussant. » Il remplira bien sa mission, car tous les mauvais instincts d'un fripon achevé sont écrits sur cette figure-là. Puis, se tournant vers Corvinus, rouge de terreur et de honte, il lui dit « Prends garde à toi, drôle, je veux avoir de l'ouvrage proprement fait. Pas de sottises, pas de massacre qui pourrait me nuire. Je paie bien si l'on me sert bien, mais je punis bien si l'on me sert mal. Va-t'en. » Et souviens-toi que si ton dos me répond d'une petite faute, ta tête me répondra d'une plus grande. Les faisceaux des lictors contiennent une hache aussi bien que des verges. » L'empereur se levait pour se retirer quand son regard aperçut Fulvius, mandé comme espion de cour, mais qui se tenait autant qu'il le pouvait dans l'ombre. « Holà, mon digne oriental !» lui cria-t-il. « Approchez-vous !» Fulvius obéit avec un empressement fin qui cachait sa répugnance réelle. il approchait avec défiance, comme si on lui eût commandé d'aller très près d'un tigre dont la chaîne ne lui paraissait pas très forte. Il s'était aperçu, dès le début de son arrivée à Rome, que sa personne n'était pas agréable à Maximien, quoiqu'il ne pût s'en expliquer complètement la cause. Ce n'était pas seulement parce que le tyran avait déjà un assez grand nombre de favoris à enrichir et d'espions à payer, sans que Dioclétien lui en envoyât d'autres d'Asie. Quoique cette considération eût son poids, il y en avait une autre. Dans le fond de son cœur, le tyran pensait que Fulvius avait été envoyé pour l'espionner et redire à Nicomédie tout ce qui se passait et tout ce qui se disait dans sa cour. C'est pourquoi il était obligé de tolérer Fulvius, de l'employer quoi qu'il lui déplût, et ne pas aimer pour Maximilien, c'était haïr. Ce fut donc une compensation pour Corvinus lorsqu'il entendit l'empereur traiter son élégant allié aussi rudement que lui. « Je n'ai que faire de vos regards hypocrites et doucereux, camarades. Je vous demande des actes et non des sourires. Vous êtes venu ici, annoncé comme un fameux dénicheur de complot, une sorte de furet exercée à faire sortir les conspirateurs de leur terrier ou à sucer leurs œufs à mon profit. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu de tout cela, et cependant vous avez eu beaucoup d'argent avant de vous mettre à l'ouvrage. Les chrétiens vont vous fournir un abondant gibier, tenez-vous donc prêts et faites-nous voir ce que vous savez faire. Vous connaissez ma façon d'agir, regardez donc d'un regard perçant autour de vous, ou bien vous verrez devant vous quelque chose de plus perçant et de plus effilé que vos regards hypocrites. Les propriétés des condamnés seront divisées entre les accusateurs et le trésor, à moins que je n'aie des raisons particulières pour tout garder. À présent, vous pouvez partir. » Le plus grand nombre des assistants pensèrent que ces raisons particulières deviendraient bientôt tout à fait générales.